Vous écoutez On lit pour vous.
Projet pilote pour doter les communautés autochtones de détecteurs de fumée. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 9 juin 2025 dans Le Devoir. Frustration et déception. C'est ce que ressent le directeur du Conseil national autochtone de la sécurité incendie, Arnold Lazare, chaque fois qu'un incendie se déclenche dans une maison sans détecteur de fumée. Et dans les communautés autochtones, ça arrive souvent. Trop souvent, regrette-t-il. Mais il espère que les choses changent enfin, grâce à un nouveau programme de sensibilisation et de distribution de détecteurs de fumée. Ça me fâche quand je vois ça, je me dis « Pourquoi la famille n'a pas de détecteur ?» Et je suis déçue de voir que malgré tous mes efforts, le message ne passe pas. Il y a 2 ans, le Conseil national autochtone de la sécurité incendie a demandé à Statistique Canada de faire une étude qui est venue confirmer ce que M. Lazare savait déjà. Il y a beaucoup plus de décès attribuables à des incendies dans les communautés autochtones que dans le reste de la population. Les Autochtones comptent pour 20% des décès liés aux incendies au Canada, alors qu'ils ne représentent que 5% de la population, résume M. Lazare, membre de la Brigade des pompiers de Kanawake depuis plus de 40 ans. Il parle d'une tempête parfaite, des familles nombreuses qui habitent dans des maisons inadéquates, dans des communautés isolées, avec des services incendies sous-financés, et l'absence de détecteurs de fumée. Quand on a des familles nombreuses qui vivent dans des maisons qui ont besoin de réparation sans détecteur de fumée, ça augmente le risque que plusieurs personnes perdent la vie. Et c'est ce que l'étude a documenté. Mais pourquoi les familles autochtones ne se dotent-elles pas de détecteurs de fumée? Je ne comprends pas, répond M. Lazare après un long silence au téléphone. C'est une bataille difficile. Il y a une multitude de raisons. L'une de ces raisons, c'est que les communautés autochtones ne sont pas tenues de respecter les codes du bâtiment et de prévention des incendies édictés par les gouvernements provinciaux, explique-t-il. C'est un gros problème. Puisqu'on est en zone grise, le poids d'aller chercher un détecteur de fumée incombe souvent aux familles. Certaines familles vont évoquer le manque d'argent, même si ces appareils ne coûtent que quelques dizaines de dollars, rapporte avec découragement le pompier. Mais c'est surtout un problème de manque d'éducation et de sensibilisation, constate-t-il. Projet pilote novateur. C'est pourquoi il y a de grands espoirs dans un nouveau programme de sensibilisation et de distribution de détecteurs de fumée destinés aux communautés autochtones du Canada. L'initiative, qui regroupe le Conseil national autochtone de la sécurité incendie, Pompiers sans frontières et KID, un fabricant d'avertisseurs de fumée, a été lancée dans la communauté de Kanawake. Pour la première phase de ce projet pilote, des équipements sont envoyés dans une quinzaine de communautés autochtones à travers le pays. On ne fait pas juste donner les équipements comme ça. On travaille avec les services incendies pour faire de la sensibilisation et leur montrer comment les installer correctement, explique M. Lazare. Parce que si on installe un détecteur dans la cuisine et que les gens cuisinent beaucoup de choses grasses, ça va sonner constamment. Les gens vont juste le désactiver et ils ne seront plus protégés. La compagnie KID déploie depuis 4 ans déjà son programme « Alarmons-nous » dans différentes villes canadiennes et américaines. Mais en voyant les statistiques alarmantes dans les communautés autochtones, elle a fait un partenariat avec le Conseil national autochtone de la sécurité incendie pour répondre à leurs besoins spécifiques, explique la responsable des communications, Yvanette Bonilla. Le but, c'est que les communautés soient en sécurité, Alors on espère vraiment que les gens vont embarquer avec nous dans cet effort collectif. » dit-elle. On est tous ensemble là-dedans, avec nos partenaires, parce qu'on veut vraiment faire une différence. C'était Projet pilote pour doter les communautés autochtones de détecteurs de fumée, un texte de Jessica Nadeau, paru le 9 juin 2025 dans Le Devoir.
Circo, une odyssée intime à la recherche de soi. Un texte de Logan Cartier, paru le 18 juin 2025 dans le magazine Fugue. Filmé sur une durée exceptionnelle de 5 ans, Circo, le nouveau long-métrage documentaire de la cinéaste franco-marocaine Lamia Shraibi, suit le parcours bouleversant de Richard, maintenant Achila Mouler, un artiste de cirque de Rio de Janeiro. De ses débuts prometteurs sous le chapiteau jusqu'à sa quête identitaire au sein de la communauté drague, le film offre une immersion poignante dans le monde des favelas et des marges urbaines brésiliennes. Une vie renversée, la rupture et ses répercussions. Dès l'ouverture du documentaire, un événement bouleverse l'équilibre de Richard. Sa mère adoptive le met à la porte, le laissant sans ressources, ses rêves de grande scène s'effritant soudainement. À 20 ans, il affronte la descente dans les traumatismes d'enfance auxquels il avait jusque-là échappé et se retrouve à improviser une nouvelle vie dans l'adversité. C'est dans l'univers des drag queens que Richard trouve un refuge émotionnel et créatif. À travers les paillettes, les gestes et la convivialité de ce milieu, il s'ouvre à une autre facette de son identité. Le documentaire suit alors sa transformation en Achila Mouler, une métamorphose aussi lumineuse que fragile, portée par l'aspiration à se reconstruire. Ce choix artistique et personnel devient un vecteur d'apaisement, de reconstruction et d'affirmation de soi. Les favelas de Rio de Janeiro, décrites avec réalisme par Shraibi, ne sont pas seulement un décor. Ce sont des espaces vivants, faits de solidarité, de lutte et de souffrance. À travers la caméra, en cinéma direct, on y découvre des scènes du quotidien où la jeunesse lutte pour exister, s'émanciper et se rêver un avenir. Le film fait écho à ces aspirations collectives, dont Richard, Achila, devient l'une des figures centrales. Un film entre intimité et regard social. Derrière le drame personnel se dessine un chemin de résilience. Le documentaire évoque la spiritualité afro-brésilienne du candomblé qui offre à Richard une guidance et un sentiment d'appartenance. En parallèle, sa sœur et les drag queens qui l'entourent incarnent une sororité moderne, un soutien vital face aux épreuves, parfois plus concret que celui d'une famille biologique. Circo est un projet puissant, fruit de tournage en direct sans reconstitution artificielle. La caméra de Shraibi capte aussi bien les moments de grâce lors de numéros acrobatiques que les effondrements émotionnels. La transformation de Richard se fait sous les yeux du spectateur, révélant l'urgence d'un art politique et intime. Le film dépeint la double rupture, celle familiale et celle identitaire, avec comme seul horizon la quête de nouveaux foyers, intérieurs et collectifs. Circo se place également dans le grand débat sur l'inclusivité dans les arts. Il met en lumière une marginalisation croisée, identité queer plus origine modeste, tout en montrant la puissance régénératrice de la créativité et de la communauté. Il questionne aussi notre responsabilité collective face à la reconstruction des identités individuelles. Circo est bien plus qu'un documentaire. C'est une traversée sensible à travers le chaos de la rupture, l'effervescence artistique des favelas, la solidarité LGBTQ+, la spiritualité. Il s'inscrit dans une lignée de portraits engagés qui mettent en lumière des parcours invisibles, mais essentiels. Avec son récit élégant et son empathie, Lamia Shraibi offre un film universel où se croisent douleur, beauté et force de résilience. Info, Serco prend l'affiche à Montréal le 11 juillet, distribuée par les films du 3 mars. C'était « Serco, une odyssée intime à la recherche de soi », un texte de Logan Cartier paru le 18 juin 2025 dans le magazine Fugue.
L'avènement de Plume la traverse tel que vécu par Dr. Landry. Un texte de Félix B. Défossé paru le 3 juin 2025 dans Le Devoir. Comment l'indécrottable bum de la chanson qu'est Plume la traverse est-il devenu l'artiste sans repentir que le Québec entier connaît? A priori, c'est en côtoyant deux autres frics avec qui il forme le groupe La Sainte Trinité, Pierre Léger, dit Pierrot le Fou, et Pierre Landry, dit Docteur Landry. Ce dernier, devenu un prolifique auteur maintes fois publié chez VLB et aux éditions Trois Pistoles, raconte dans son livre « Plume, Pierrot et moi » aux éditions du Septentrion les tribulations d'un trio aussi infernal que sacro-culte durant la période d'explosion culturelle québécoise de la fin des années 1960 et du début des années 1970. J'ai été en quelque sorte le premier fan de Plume la traverse, affirme avec beaucoup d'humilité Pierre Landry, joint à son domicile de Rivière-du-Loup. Dans cette œuvre autobiographique, il fait découvrir au lecteur son quotidien hirsute d'antan, celui d'un poète et flûtiste à Bec le soir, enseignant collégial à Repentigny le jour. À cette époque, il est souvent le premier à entendre les nouvelles compositions de son ami Michel Latraverse, dont le sobriquet Plume fera école. Bien qu'il savoure encore ce privilège, M. Landry a volontairement évité de tomber dans le compte-rendu des faits et gestes de l'auteur de Bob Épine. Ce que j'ai voulu faire, c'est un récit, celui du passage d'un ticu qui part du Saguenay en rupture de banc, en révolte par rapport à la société qui est la sienne, et j'ai voulu que ce personnage devienne le porteur de cette histoire. C'était important pour moi d'exprimer la réalité de cette période. À peu près dans la même année, on a eu droit à la sortie des Belles-Sœurs, de l'Hosticho, de Nègre Blond d'Amérique, du Parti québécois. C'est la naissance du Québec contemporain à laquelle on assiste à cette époque. Et comme toute naissance se fait dans la douleur, ça s'est aussi fait au travers des bombes. Imaginez s'il y avait une bombe qui éclatait à Montréal à peu près chaque semaine et qu'il y avait constamment des manifestations qui tournaient à l'émeute, où on a des centaines de blessés, des incendies. On ne peut presque pas imaginer ça aujourd'hui, mais c'est le contexte dans lequel on évoluait. Entre le plateau et Percé. L'auteur fait ici bien sûr référence aux attentats à la bombe du Front de libération du Québec perpétrés au cours des années 1960 et ayant mené ultimement à la crise d'octobre en 1970. D'ailleurs, la Sainte Trinité est officiellement née à Percé au cours de la saison qui a précédé. C'est là que le premier spectacle a été donné. De retour à Montréal, après quelques mois dans l'Est, le trio donne son premier show dans la métropole au cours de l'automne de la crise. Difficile d'être davantage au milieu de l'action. Cette effervescence est phénoménale. Le monde est en train de vaciller sur son socle, écrit Pierre Landry pour illustrer l'époque. On assiste à une véritable révolution où la culture québécoise secoue d'un seul coup le joug qui la tenait enfermée dans un carcan, une geôle asphyxiante où l'emprise bourgeoise, l'académisme, le bon parler et les bonnes manières tenaient en otage l'expression profonde d'un peuple. C'est dans cette ambiance que je prends possession d'un demi-sous-sol situé au 3505 de la rue Elmer à l'automne 1968. Il place ainsi une grande partie de l'action du récit sur le plateau Mont-Royal, mais les péripéties se déplacent aussi régulièrement à Percé où, chaque été, la triade se rend en quasi-pèlerinage vivre une vie bohème où ses liens se raffermissent. intellectuel ou flambeau, le récit met en lumière que ces vagabonds de la belle saison sont aussi des intellectuels, enseignants et poètes publiés qui s'impliquent en politique traditionnelle, pratiquent le journalisme, captent quelques cours du collège classique et de baccalauréat à moitié entamés, juste assez pour avoir lu et pas suffisamment pour ne pas avoir bu. C'est un point commun que nous avions tous les trois. Nous étions passés par les collèges classiques, mais nous étions aussi des drop-out. Nous avions donc une grande partie de l'éducation qu'on associait à l'élite québécoise, précise-t-il. Le bouquin de Pierre Landry démontre aussi que le trio était influencé par et en phase avec les artistes québécois parmi les plus avant-gardistes de l'époque, citant comme inspiration délirante l'incontournable Lusty Show de Robert Charlebois et particulièrement le quatuor de jazz libre du Québec qui l'accompagnait, ainsi que l'Infonie de Raoul Duguay et Walter Boudreau. Plus qu'un toubib, un jeune ne s'y retrouvera peut-être pas à la première lecture. Les références à des personnages, faits et lieux maintenant historiques étant nombreuses, constantes. Mais le jeune curieux ira googler ces références et se retrouvera immédiatement érudit. Celui qui saisit l'occasion d'apprendre ici obtient automatiquement un bac en bomérologie. Et cela est écrit avec le plus grand respect envers ceux de cette génération qui ont vécu avec avidité. Docteur Landry se révèle finalement peut-être davantage comme un professeur, un passeur qu'un toubib. Il a été témoin et acteur d'une période charnière de réinvention de l'identité québécoise et il s'en fait ici l'adroit scribe. Ayant publié un seul album avec la Sainte Trinité, Trinitaire, disque Zodiac, paru en 1971, on pourrait penser que la contribution de Dr. Landry au grand catalogue musical québécois s'arrête à cet objet aujourd'hui grandement convoité par les collectionneurs, mais ce n'est pas le cas. On apprend qu'il est aussi l'auteur du classique de Plume « Le retour à la terre ». Oui, c'est lui qui a écrit le fameux refrain « Mais nous avons le soleil ». En entrevue, il ajoute aussi que ce retour à la terre, il l'a vécu à la première personne, quittant Montréal à la fin de la Sainte Trinité en 1972 pour s'installer dans une commune du bas du fleuve durant 13 ans, laissant derrière lui une ère follement féconde. C'était l'avènement de Plume la traverse tel que vécu par Dr. Landry, un texte de Félix B. Desfossé paru le 3 juin 2025 dans Le Devoir.
Les plaisirs sans gêne estivaux. Une chronique de Sophie Gagnon-Roberge, paru le 10 juin 2025 dans Les Libraires. Lorsque l'été se pointe le bout du nez, plusieurs parents cherchent LE livre qui donnera envie à leur enfant de lire pour conserver ses acquis ou en développer de nouveaux. Toutefois, cultiver les apprentissages durant la période estivale, c'est aussi et surtout s'assurer de semer non pas une seule, mais plusieurs petites graines du plaisir littéraire. S'enthousiasmer pour des œuvres qui peuvent être faciles, amusantes, tout en nous éveillant le désir de tourner les pages et en nous faisant vivre des émotions à travers cet espace précieux qui se définit entre le livre et soi. Ce dernier pourrait d'ailleurs être une des sensations qu'on retrouve dans la nouvelle création d'Andy J. Pizza et Sophie Miller, Les trucs invisibles, tout juste paru chez Comme des géants. Dès la page de garde, nous sommes invités à poser sur notre nez des lunettes invisibles conçues spécialement pour voir des trucs invisibles. Avant d'être guidés avec bienveillance, par une narration à la deuxième personne à travers un imagier nouveau genre dans lequel ce qu'on nous présente n'est pas un animal, une fleur, un lieu, mais où on nous convie plutôt à partir à la rencontre de ce qui dépasse la réalité, de ce que nos yeux normaux ne peuvent pas distinguer, mais qui pourtant existe. Des odeurs, des sensations, des émotions, des ambiances. Amenant le lecteur à passer par ses cinq sens, les créateurs facilitent l'exploration de l'invisible en le rendant le plus concret possible, tout en conservant une lucidité certaine et de l'interactivité. Ainsi, on peut tenter d'associer des sons et des senteurs à de petites images, de fermer les yeux pour percevoir tous ces trucs invisibles grâce à ses sens, ou encore de trouver la représentation de différentes ambiances dans une grande illustration. Les trucs invisibles, c'est aussi un livre qui parle d'émotions complexes, telles la déprime ou la mélancolie, avec délicatesse, tout en suggérant des pistes pour bien les vivre quand elles nous rendent visite. Un des plaisirs que les adultes ont tendance à bouder et à reprocher aux enfants, ce sont les mangas. Pourtant, il y a une telle diversité dans la production qu'en faire un seul ensemble est réducteur. D'ailleurs, en lecture estivale, par petites bouchées, je conseillerais le très beau Louve, paru dans la collection Le Renard Doré des éditions Rue de Sèvres. Louve, c'est un conte morcelé de Miyako Miiya, constitué de 9 courtes histoires qui seront complétées par un deuxième tome et qui présentent la vie de 2 bergers veillant sur leurs moutons aux oreilles de lapin sur le mont Gémissant. Ur, d'apparence humaine, et sa sœur, Juf, louve géante. Il y a Alicia, l'archéologue qui a échappé à une meute de loups. Tété, la vieille chienne de la famille. Blanc, le chasseur au grand cœur. Barn, le boulanger à la mine patibulaire, habitué d'effrayer les autres. Omi, gardien de chèvres, orphelin. Paula, jeune fille égarée. Céline, malade à l'oreille mélomane. Chibi, agneau fugueur. Et funeste, guérisseur ou escroc. À travers chacun de ces contes, entre lesquels on peut, au départ, chercher un lien, le quotidien se dévoile et les pièces du casse-tête s'imbriquent. Guidés par une narration externe, on comprend peu à peu la relation qui unit Ur et Juf, ainsi que leur manière de vivre avec cette différence, pour le moins voyante, qui afflige cette dernière et d'oser affronter le monde. S'il n'y a pas beaucoup d'action, c'est justement le genre de lecture d'ambiance parfait pour un moment plus doux, sans contrainte et sans obligation. C'est aussi une belle façon de s'initier au manga pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, ou encore pour les amateurs du médium, de faire la rencontre d'une histoire surprenante qui ne donne pas toutes les réponses. Et si notre enfant, notre adolescent, refuse vraiment le contact avec les livres, lancez-lui le défi de découvrir une œuvre qui est sortie l'automne dernier et a semé une petite controverse dans le monde littéraire en lien avec sa proposition, plutôt atypique. En effet, le très très gros livre de ceux qui n'aiment pas trop lire, c'est un pavé de 312 pages qu'on peut parcourir en 15 minutes. Ça vous semble court? C'est parce que Frédéric Wolff joue justement sur le fait que les gros livres peuvent effrayer, avoir l'air ennuyant, paraître impossible à terminer. Il nous invite donc, à travers une aventure littéraire surprenante, s'adressant directement à son lecteur pour l'encourager à poursuivre et à vaincre son défi. 316 pages lues, incluant celle-ci. Bravo! Pourquoi une controverse? Parce qu'il y a quelques pages blanches. Question d'avancer plus vite. Ou encore un seul mot par page. Le temps de chapitre, que ce n'est pas tant une histoire suivie qu'une suite de moments divertissants, et que certains pensent que ce type d'œuvre ne vise qu'à être lu une fois, puis oublié, ce qui rend cher le ratio temps-argent. Pourtant, Frédéric Wolff fait preuve de créativité pour désacraliser le rapport du lecteur au livre et l'inviter à s'y amuser, tout simplement, à cesser d'en avoir peur et à se laisser porter par l'expérience. En tant que grande lectrice, j'ai éclaté de rire en découvrant les résumés des différents tomes de Harry Potter ou en tentant de suivre les choix du chapitre dont vous êtes le héros. Cette lecture est d'ailleurs du genre de celle que je ferais traîner sur ma table de chevet, question d'en regrappiller des bouts entre deux œuvres plus exigeantes. Puisque lire, c'est aussi parfois se faire plaisir, peu importe le format, le public initial visé ou encore le jugement des autres. Particulièrement l'été. C'était Les plaisirs sans gêne estivaux. Une chronique de Sophie Gagnon-Roberge, parue le 10 juin 2025 dans Les libraires.